En août 1914, ce sont des nations profondément ancrées dans la tradition chrétienne qui entrent en guerre. Que ce soit la France, bien que laïque, elle reste très profondément marquée par le catholicisme. L'Angleterre anglicane, ou l'Allemagne luthérienne, évidemment, mais très largement au nord et plus catholique au sud. Et on peut constater que les nationalismes, de toutes parts, ont finalement tout emporté sur leur passage. Ils ont aussi bien balayé le christianisme que ces peuples avaient tous en partage, comme ils ont emporté l'international socialiste, aussi bien du côté français que du côté allemand. Et je crois que sans la prise en compte de l'ancrage ancien de ces sociétés européennes dans le christianisme, qui allie sacrifice, mort et résurrection, on ne peut pas comprendre, concevoir le consentement même des peuples à cette guerre, et ceci, je dirais, dans la durée, le consentement à la fois des combattants sur le front, mais aussi des civils à l'arrière, que ce soit en France, en Allemagne ou en Angleterre. Et le sacrifice du combattant, mort au champ d'honneur, pour la défense de la terre des terres, et à l'époque ça avait du sens, il y avait beaucoup d'agriculteurs, de paysans, la patrie, il donne sa vie pour que la patrie vive, pour une cause nationale qu'il juge finalement ou accepte de considérer comme supérieure à sa propre personne. Il y a quelque chose qui rappelle un peu la kénose en termes religieux, et c'est ce que commémore finalement à Verdun, le sacrifice à nos yeux, 100 ans après, je crois, un peu fou, enfin carrément fou, inconcevable. La dimension mémorielle n'était pas d'ailleurs elle-même au cœur du sacrifice chrétien sur lequel beaucoup des combattants font le leur. Vous ferez cela en mémoire de moi, qui est le référentiel chrétien dans les mentalités de cette Europe-là, qu'on oublie un petit peu, surtout du côté français, marqué par une laïcité un peu exagérée, comme le dit si justement le pape, se retrouve sans surprise alors jusque dans les rites funéraires et les symboles qui marquent le deuil de ces hommes morts pour la patrie, quelles que soient les couleurs nationales.
Après le traumatisme de la guerre de 1914-1918, l'évêque de Verdun, Mgr Charles Génisty, décide ou prend l'initiative de construire l'ossuaire de Douaumont, qui est un haut lieu, on va dire chrétien, puisque c'est quand même un lieu planté de croix, c'est un ossuaire, il y a une chapelle, mais c'est aussi un symbole de la France et de la République en guerre.
Douaumont, c'est donc une nécropole avec énormément de croix blanches, ça saisit inévitablement, quand on arrive on est impressionné. C'est un bâtiment profane de l'extérieur, ça ressemble un peu à un long blocus, et pourtant il y a une grande chapelle qui est au milieu de l'édifice, et la partie centrale, le phare, la tour, s'inscrit quelque part dans la tradition chrétienne, parce qu'elle n'est pas sans rappeler, dans son manière générale, la figure d'un chevalier avec un symbole chrétien, ou alors une croix, et puis le sommet ressemble un peu à un home de chevalier avec ses différentes fenêtres. Mais au milieu, il y a bien une chapelle. Et ces croix, c'est un des grands paradoxes de cette après-guerre, parce que dans cette partie du monde anciennement travaillée par le christianisme, la croix était non seulement le signe de la résurrection, mais évidemment le signe de la mort, le respect dû aux morts est passé par elle, du côté français comme du côté allemand. Et les croix de bois sont devenues non seulement le symbole de la mort en masse, mais tout simplement le symbole même de la Grande Guerre. Et c'est un des grands paradoxes, et c'est pas un des moindres, que de constater que la République laïque vient de se séparer tout fraîchement de l'Église en 1905, a spontanément enterré ces hommes sous un symbole qu'elle interdisait dans ses écoles, ses tribunaux et les monuments publics. Et donc c'est assez paradoxal de voir que la République de Clémenceau, de Jean Jaurès, d'Émile Combes, a ainsi commandé, mais alors sans aucun état d'âme, des centaines, des milliers de croix pour ces soldats morts au champ d'honneur, et ceci par des adjudications de marché public en cercueil et en croix. Et ça veut dire une chose, c'est que la guerre et le culte des morts qui est intrinsèque a en quelque sorte réintroduit, voire relégitimé le religieux dans la société française de l'après-guerre, et c'est très naturellement le spirituel dans sa version catholique qui s'y déploie du fait même de son importance numérique et historique.
Qui est Mgr Génisty, l'évêque de Verdun de l'époque, et qui est à l'origine de l'ossuaire de Douaumont?
C'est un Aveyronnais, c'est une famille rurale comme on en trouvait dans cette vieille terre de chrétienté qui était l'Aveyron. Je crois qu'il y avait 14 enfants, il est le 12e, il y a eu 3 prêtres, une religieuse. Il vient d'arriver juste au printemps 1914 à Verdun, c'est pas un grand diocèse, et il bascule dans l'histoire, effectivement, et il est représentatif de ce clergé de cette époque-là, très patriote. Comme beaucoup de catholiques français, il n'a sans doute pas entendu les invitations à la paix blanche de 1915. Beaucoup de catholiques français étaient catholiques et français toujours, mais finalement, ils se sont révélés plus français que catholiques, Et dans son esprit, on peut dire qu'en construisant Douaumont, son programme de commémoration repose, je crois, sur la certitude d'une victoire qui va effacer l'humiliation de 1870. Et ça repose aussi sur la revendication par l'Église de France d'avoir apporté son tribut de sang, celui de ses fidèles, très nombreux, une France encore rurale, très catholique, mais aussi tous ces prêtres, les séminaristes, les religieux, et notamment les religieux qui avaient été chassés de France, qui néanmoins reviennent le 2-3 août 14 pour défendre la patrie au nom de l'Union sacrée.
Vous diriez que finalement, l'ossuaire de Douaumont est un peu le symbole, le signe concret de la réconciliation de la République avec l'Église catholique.
C'est une des expressions, non pas d'une retrouvaille, mais d'un apaisement dans les relations. Et effectivement, avec la guerre de 14, 1918, il y a 26 000 prêtres se trouvent sous les drapeaux, il y a près de 4 800 prêtres séminaristes religieux qui meurent pour la patrie. La masse de ces prêtres meurt au combat, et puis l'importance du nombre de prêtres dans les tranchées qui reviennent ensuite au village, dans le quartier, va permettre au clergé français de réinsérer la société masculine de l'entre-deux-guerres. Ce n'est pas un hasard si l'Église catholique va béatifier Jeanne d'Arc, au moment où la France en fait une héroïne nationale, les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'Église sont rétablies, parce qu'au fond, la République a compris que se priver de relations pendant la guerre, ça avait été d'une grande efficacité. Le concordat en Alsace et en Moselle va finalement être maintenu, et signe des temps, on arrive à discuter entre Paris et le Saint-Siège pour aboutir aux associations diocésaines, des discussions qui aboutiront à ce que l'Église ait un statut juridique. Donc je pense qu'effectivement, Douaumont fait partie de ces signes d'un apaisement des relations. Ce n'est pas le grand amour, mais avec la guerre de 14, il y a eu comme un deuxième ralliement des catholiques français à la République après celui prôné par Léon XIII dans les années 1890.